Alors, bonjour à tous, bonjour à chacun. C'est vraiment une joie pour moi d'être ici avec vous ce matin pour célébrer Pâques. Et franchement, on a été gâtés. Je ne dirais pas qu'on a été plus gâtés qu'Herstal, mais on a eu quand même des enfants, les petits, les grands qui ont fait la chorale. Donc franchement, merci à chacun pour toutes ces préparations pour célébrer la gloire de Dieu. Alors, vous avez les salutations de l'église d'Herstal. Je vous les remets maintenant parce que je risque d'oublier par la suite. Alors ce matin, je vous propose, on vous a déjà donné le passage, mais je vous propose de regarder le déclic où deux personnes ont retrouvé la vue en même temps, au même moment. Alors, je suis sûr que personne d'entre vous n'a déjà entendu dans la parole de Dieu, on a vu la guérison de deux aveugles en même temps. On a déjà vu la guérison de 10 lépreux, mais deux aveugles au même moment, on ne voit pas où. Alors, je pense que certains d'entre vous n'ont pas vu non plus qu'on a rendu la vue à des aveugles à travers un repas. On a déjà vu qu'on mélange de la salive avec de la boue, on met sur les yeux. Et peut-être que oui, mais comment est-ce qu'on peut rendre la vue avec un repas? Est-ce que c'est une histoire qui est dans la Bible? Non. Pourtant, regardez, écoutez ceci. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la parole de bénédiction, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Ce que je dis, ce n'est pas juste de mon imagination. Vous vous en doutez, c'est bien dans l'évangile de Luc, dans le passage que vous êtes. On a ici deux disciples qui sont incapables de voir. Ils sont comme aveugles. Et lorsqu'ils prennent le pain, alors nous dit le texte, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Les yeux s'ouvrirent. Alors, je vais aller avec vous dans Luc, chapitre 24, les versets 13 à 35, et on va lire ça ensemble. Luc 24, versets 13 à 35. Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble et tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant, pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? » ?»« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui est un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. » Verset 21, « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. Et il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que les anges leur apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Puis, en commençant par les écrits de Moïse et en continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous car le soir approche ». Le jour est déjà sur son déclin. Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les onze et les autres qui étaient rassemblés, et ils leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité !» Et il est apparu à Simon. Alors les deux disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. 19 mars 2016. Stéphane et Alain, deux colocs qui habitent à Etterbeek, sont montrés dans le métro pour se rendre à la gare centrale. Sur le trajet, ils discutent de ce qui s'est passé 3 jours plus tôt. Personne n'aurait pu croire une chose pareille. Quel drame pour les familles qui sont en deuil, les familles déchirées. La discussion est intense et mouvementée, parce que remplie de beaucoup d'incompréhension. Cette agitation entre Stéphane et Alain interpelle le monsieur qui est assis juste derrière eux dans le métro. Il penche la tête en avant et il demande « Mais pourquoi vous êtes si choqué? Pourquoi vous avez l'air si troublé? Pourquoi est-ce que vous discutez comme ça si intensément ?» Et là, ces deux jeunes se retournent et disent « Mais vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé ici il y a 3 jours à l'aéroport de Zaventem ?» Si c'est le cas, ben, vous êtes vraiment le seul à ne pas savoir. Mais ce monsieur, il insiste une deuxième fois. Mais de quoi vous parlez? De quel sujet? Stéphane et Alain alors leur expliquent que Mohamed Abrini et ses compagnons ont fait 39 morts et 340 blessés à l'aide de ceintures explosives. Qui à Bruxelles? Qui en Belgique ou même en Europe n'était pas au courant de cet attentat? Dans ce récit, on est presque dans la même situation. Tout le monde est au courant de la mort de Jésus sur la croix. Ces deux disciples sont bouleversés et discutent en chemin. Ils étaient remplis d'incompréhension. Mais la grande différence, l'énorme différence, c'est que la tuerie sur la croix était nécessaire et surtout devait être comprise à travers la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est ici que se concentre toute l'incompréhension de nos deux chers disciples ici. Il y a une tension pour eux insoutenable entre la mort de Jésus et le règne du Messie. Versets 19 et 20, regardez. Comment un puissant prophète, en acte et en parole, avait pu être crucifié? Versets 21 et 24, regardez, on pensait que c'était lui le Messie promis, celui qui nous délivrerait. Pourtant, on a été au tombeau, et comment le tombeau est? Il est vide. On n'a pas trouvé, Jésus n'est pas vivant, il n'est pas là, il a disparu. Ces deux disciples sont complètement perdus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le temps avec eux, pour leur montrer qu'il est possible d'accepter cette tension entre la mort et le règne. Pour bien comprendre ce qui se passe, je vous propose de regarder ce matin ce texte en deux temps. Dans un premier temps, on va regarder pourquoi ces deux disciples sont là, anonymes, et pourquoi ils sont aveugles face à cette mort de Jésus. Et ensuite, on va regarder comment ils ont retrouvé la vue et quel impact ça a eu directement sur eux. Premièrement, les versets 13 à 24. Deux disciples anonymes, ou presque, on va voir, et leur aveuglement. On a ici deux disciples, pas très impressionnants. D'ailleurs, au début, on parle de deux disciples, on ne donne même pas leur nom. Verset 18, si on regarde, on voit qu'un des deux est quand même nommé Cléopas. Mais ces deux disciples, dites-moi si je me trompe, mais on ne les voit qu'ici dans la Bible. À aucun endroit on les retrouve. Ils faisaient partie de ceux qui suivaient Jésus, et on comprend cela parce qu'ils sont témoins des actes et des paroles de Jésus, nous dit le texte. Ils étaient certainement présents quand Jésus a accompli toutes sortes de miracles, et on a entendu tantôt les enfants le chanter. Peut-être quand il a fait la multiplication des pains, peut-être quand il a fait des guérisons, peut-être quand il a calmé la tempête. Ils étaient présents aussi quand Jésus prononçait ses discours, quand il enseignait aux foules avec autorité. Luc ne nous dit rien d'autre d'exceptionnel sur ces deux disciples, si ce n'est qu'ils ne comprennent rien aux souffrances de Jésus. Pourquoi est-ce que Jésus est mort? Pourquoi est-ce qu'il a disparu? Et quand je lis leur histoire, je me dis que facilement, on peut s'identifier à eux. Eux et nous, on est pareil finalement. On discute souvent entre nous, entre frères et sœurs de l'Église, avec nos époux, avec nos enfants, avec nos amis, ou même on discute des fois avec nous-mêmes, et on a la même réflexion que ces deux disciples. Comment Jésus Tout-Puissant peut-il être mort? Comment il peut nous délivrer s'il n'est plus là? Pourquoi est-ce que le médecin m'a détecté une maladie incurable alors que Jésus m'a dit qu'il était si bon et Jésus est si puissant? Comme eux, au verset 21, on peut souvent se dire, mais nous espérions que Jésus allait apaiser les tensions au travail avec certains de mes collègues. Mais ce n'est pas le cas. C'est toujours tendu, ça ne se règle pas, le problème n'est pas réglé, mais c'est normal, Jésus n'est plus là. Il y a quelques années, un missionnaire, ça faisait 30 ans qu'il était dans le ministère, m'a posé cette question. Comment penses-tu que l'on peut ressentir la présence de Jésus? C'était une question qu'un jeune lui avait posée. Et il ne savait pas vraiment comment répondre. Mais oui, c'est vrai. J'espérais en devenant chrétien que je ne serais plus jamais seul. La Bible dit que je ressentrais la présence de Jésus, mais je ne ressens rien. Comment ces disciples, on est en route, on discute et nous sommes tristes. Parce que Jésus n'est pas toujours à la hauteur de nos attentes. On a été comme eux et on l'est encore. On est exposé à la puissance de Dieu à travers ses actes et à travers ses paroles. Chaque fois que nous entendons un enseignement fondé bibliquement, chaque fois que nous lisons notre Bible, chaque jour chez nous, quotidiennement, chaque fois que nous voyons un frère, une personne transformée par Christ, par son œuvre, quelqu'un qui se convertit, on est témoin de la puissance de Dieu jour après jour. Et pourtant, versets 15 et 16, Jésus marche avec nous, comme ses deux disciples. Et nos yeux nous empêchent de le reconnaître. Nos peines, nos souffrances, notre péché, nos désarrois, nos tristesses nous empêchent de voir Jésus dans toute sa gloire. Alors à ce stade, j'en suis sûr, certains d'entre vous sont en train de se dire que j'exagère. En nous identifiant à ces deux disciples, que je pousse le bouchon un peu loin, n'est-ce pas? Mais regardez versets 22 et 24. C'est pas fini. Ils sont de bonne volonté, ces deux disciples-là. Ils sont ils ont plein de bonnes intentions. C'est vrai, les femmes nous ont rapporté que le tombeau était vide, que Jésus était vivant, mais nous, on va aller vérifier. On va aller au tombeau aussi. Certains d'entre nous, nous dit le texte, sont allés au tombeau. On va aller au fond des choses, on va vérifier par nous-mêmes. On est allé sur place, mais on n'a rien vu. Le tombeau était vide. D'où, Jésus n'est pas vivant. S'il n'est pas là, si on ne l'a pas vu, c'est qu'il est mort. Mais nous aussi, on va au fond des choses, n'est-ce pas? Ça fait 3 fois que je prie pour un meilleur travail, un meilleur emploi qui paye mieux et où j'ai peut-être moins de choses à faire, parce que je suis débordé là où je suis. Ça fait 3 fois que je prie pour ça, mais Jésus ne répond pas. Je n'ai pas trouvé d'autre travail, donc Jésus n'existe pas. Ou alors peut-être qu'on ne va pas se le dire comme ça, mais de manière plus subtile ou inconsciente, Jésus n'est pas vraiment celui qui prétendait être. Il n'est pas si puissant que ça, finalement. Tant de fois, nous sommes empêchés de voir qui est Jésus. Tant de fois, nous sommes dans l'incompréhension, dans la manière d'agir de Jésus. Mais Jésus vient pour nous apprendre à réconcilier ces deux choses. Regardez les versets 25 à 31. Il y a un fait étonnant qui se passe dans ce passage. Jésus va vers ses disciples qui sont tristes, qui discutent entre eux, et leur pose 2 fois la même question. De quoi parlez-vous pour avoir l'air si triste, il dit aux disciples. Ils leur disent, mais tu n'es pas au courant, tu es bien le seul qui n'est pas au courant. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il repose la même question. Mais quoi? Est-ce que vous pensez que Jésus n'était pas au courant qu'il était mort 3 jours plus tôt? Mais bien sûr, Jésus pose ces deux questions à plusieurs reprises pour les aider à réfléchir, pour pousser à la réflexion ces deux disciples. Et ici, je vais extrapoler un petit peu, mais je m'imagine ces trois hommes marcher ensemble, ils ne savent pas encore que c'est Jésus. Et ils parlent, et pourquoi tu es si triste? Pourquoi ça? Mais tu n'es pas au courant de ce qui est arrivé. Et là, on a le troisième qui dit, mais si, je sais ce qui est arrivé, mais c'est normal, ça t'étonne? Ça vous étonne, ça ne devrait pas vous étonner ce qui est arrivé. Et après cela, Jésus va directement les interpeller pour leur montrer qu'il n'y a rien de surprenant, il n'y a rien de problématique à cela. En fait, le fait que le roi qu'ils attendaient est mort crucifié, c'est normal, rien d'étonnant. Jésus va révéler le même contraste que, regardez verset 26, on va le relire. Ensemble. Verset 26, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? La souffrance de Jésus va de pair avec sa gloire et avec son règne. Et Jésus va leur montrer que rien n'est surprenant dans cela. Regardez verset 25, les prophètes l'avaient dit, les prophètes l'avaient annoncé. Et il va plus loin encore, verset 27. Il va leur donner un cours de théologie sur l'Ancien Testament. Il va commencer par les écrits de Moïse, pour aller ensuite dans tous les prophètes, pour leur montrer que toute l'Écriture le concerne, lui, Jésus-Christ. Chaque détail, chaque verset, chaque lettre que nous avons sur nos Bibles parle, pointe, vers la personne de Jésus-Christ. Dans ces versets, on ne parle pas d'un cours donné à l'IBB, à l'IBG ou à Cambridge ou autre. Non, on parle d'un cours de plusieurs heures, jusqu'à la tombée de la nuit, nous dit le texte, où le professeur Jésus lui-même explique que ce qui les dérange, cette tension entre la mort de Jésus et son règne, ce n'est pas anormal, mais que c'est justement normal. Genèse chapitre 3 verset 15 nous dit « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Dès la Genèse chapitre 3, on parle de Jésus-Christ. Les écrits de Moïse, et si on retourne même encore avant le chapitre 3 de la Genèse, on peut déjà y voir Jésus-Christ en personne. On a lu tout à l'heure Ésaïe 53, les versets, je pense qu'on a lu 5 à 6 ou même un peu plus, mais ici on va lire les versets 2 à 5. Regardez, dans les prophètes, nous dit le texte qu'à travers les prophètes, il leur montre, Ésaïe 53, 2 à 5, il n'y avait ni beauté ni splendeur propre à attirer notre regard. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont de nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. Et je pourrais prendre tant d'autres passages, psaume 22 ou encore tant d'autres passages que nous connaissons dans les Écritures qui nous parlent de Christ. Jésus utilise les Écritures pour montrer que leur tristesse finalement, ces deux disciples, leur découragement n'a pas lieu d'être. Dieu n'avait jamais promis que le Messie ne souffrirait pas, que le Messie ne mourrait pas, on vient de le voir dans ces deux passages. Alors j'espère que vous soyez jeune chrétien ou que vous soyez déjà un chrétien depuis de nombreuses années, que vous croyez à la pertinence et à l'importance de la parole de Dieu encore aujourd'hui pour nous révéler Christ, pour nous révéler son œuvre entièrement. Regardez ce qui se passe en Luc 24, les versets 28 à 29. Ils ont un tel attrait pour cet enseignement de Jésus. Ils sont en train d'écouter, de boire ses paroles, comme on dit. Qui sont en train de vouloir retenir Jésus avec insistance, vous avez vu? Ils utilisent toutes sortes d'arguments pour pas que Jésus aille plus loin. Ah, il est déjà tard, ça vaut pas la peine que tu continues ton chemin, c'est peut-être dangereux, il y a beaucoup à marcher, je sais pas ce qu'ils ont pu lui dire, on n'a pas tous les détails. Mais ils veulent continuer à lire et à comprendre les Écritures ici. Personne n'est en train de les forcer, c'est eux qui veulent. Ils ne sont pas en train de faire un effort pour cela, ils ne sont pas en train de faire leur obligation de chrétien, avoir leur CP tous les jours absolument. Non, ils ont soif de cela. Jésus va alors accepter leur requête ici, il va rester avec eux pour faire quoi? Pour le repas du soir. Alors je vous propose un petit jeu ce matin. On oublie tout ce que je viens de dire. Je ne vous en voudrais pas, ne vous tracassez pas, vous pouvez oublier tout ce que j'ai dit jusque-là. Vous oubliez tout, je vous lis un verset et vous allez me dire à quoi ça vous fait penser. Ok ? On y va. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il leur rompit et leur donna. À quoi est-ce que ça nous fait penser, n'est-ce pas ? Deux chapitres plus tôt, en Luc 22, il prit le pain. Et après avoir remercié Dieu, il leur rompit et leur donna. On se trouve dans le même cadre que lors de l'institution de la Sainte Cène. Le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples avant le supplice de la croix. Et c'est à ce moment précis, regardez verset 31. C'est à ce moment précis que leurs yeux s'ouvrirent et qu'ils le reconnurent. À ce moment-là, les yeux leur empêchaient de voir qui était réellement ce sauveur qu'ils attendaient. Mais une fois qu'ils prennent du temps avec Jésus pour étudier les Écritures qui parlent de lui, après avoir regardé comment il agissait encore aujourd'hui, ils peuvent réaliser qui est Jésus, qui il est vraiment. Rien d'incompatible entre sa mort et le fait qu'il règne encore aujourd'hui. Bien sûr, ce n'est pas le repas en lui-même qui a rendu la vue, qui a ouvert les yeux de ses deux disciples, on est d'accord. Mais il a agi comme un déclic, comme la pièce qui tombe dans la machine. D'ailleurs, vous avez vu, à la fin de notre passage, verset 35, quand ils vont rapporter aux disciples ce qui est arrivé, ils expliquent que ça s'est arrivé comment ? Alors les deux disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Ce repas, c'est la démonstration de la compatibilité entre les paroles prophétiques et les actes de Jésus, incluant sa mort sur la croix. En rompant le pain avec ses deux disciples, Jésus leur rappelle ce qu'il avait partagé quelques jours plus tôt, qu'il fallait qu'ils meurent pour qu'ils reçoivent le pardon pour leurs péchés et la vie éternelle en abondance. Et le passage se termine avec le verset 32 à 35, avec un impact instantané et visible chez ses deux disciples. À partir de l'instant où les deux disciples ouvrent les yeux sur qui est Jésus, à partir du moment où ils comprennent qui est devant eux, ce Jésus mort trois jours plus tôt, ça renverse complètement leur attitude et leurs attentes. Vous avez vu ? Ces deux disciples qui quittaient Jérusalem vers Emmaüs, le début du passage, verset 13, nous dit que c'est à une douzaine de kilomètres de là. Ils étaient partis dans un état, on se rappelle au début du texte, assez triste, abattus parce que le Messie, le roi qu'ils attendaient, était disparu. Le tombeau était vide, plus de traces de lui. Mais là, d'un seul coup, la réalité de la résurrection, parce que c'est comme ça qu'on doit l'appeler, n'est-ce pas, réjouit leur cœur d'une manière si intense que l'ensemble de leur projet est en train de basculer. Regardez verset 32. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous ?» Lorsqu'ils parlaient en chemin et lorsqu'ils nous expliquaient les Écritures. Même s'ils n'avaient pas encore reconnu Jésus avant ça, lorsque Jésus était en train de leur parler, mais maintenant qu'ils ont ouvert les yeux, ils comprennent pourquoi leur cœur était si agité, si prompt à vouloir connaître davantage de Jésus. Ils viennent de faire 12 kilomètres de marche, ils voulaient rester, s'arrêter pour prendre leur pas avant d'aller dormir. Mais là, fini. Ils veulent repartir directement dans l'autre sens. Il n'est plus question de dormir, plus question de se reposer, plus question de manger. Toutes les excuses données à Jésus pour qu'il reste avec eux, ça ne tient plus pour eux. Vous avez vu ? Le texte nous dit qu'au même moment, ils se lèvent pour retourner à Jérusalem. Et en accord avec les 11 autres disciples et les autres même qui pouvaient dire, le Seigneur est réellement ressuscité. Est-ce qu'on peut dire cela ce matin ensemble ? Le Seigneur est réellement ressuscité. La clé de toute leur incompréhension, de tout leur désarroi, de leur aveuglement, c'est la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce qu'on célèbre ce matin ensemble. À partir du moment où ils comprennent qui il est. Jésus mort, mais ressuscité. L'espoir renaît pour eux, n'est-ce pas ? Le problème de ses disciples, c'est qu'ils voulaient quoi ? Ils voulaient d'un Jésus vivant. Un Jésus qui soit toujours là avec eux. Un Jésus qui ne meurt pas. Mais ce dont ils avaient besoin, ce n'est pas d'un Jésus vivant. C'est un Jésus mort et ressuscité. Et c'est là toute une différence pour nous. Bien sûr que Jésus est vivant aujourd'hui et qu'il règne et qu'il est assis à la droite du Père. On l'a chanté ensemble, bien sûr. Mais ce dont nous avons besoin, c'est de la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ, ça sonne comme une victoire. Une victoire sur la mort, sur nos souffrances, sur notre propre péché. Un Jésus qui ne serait jamais passé par la mort, n'aurait pas pu la vaincre. Pas de résurrection, pas de victoire. On est tous d'accord, j'espère, avec ça ce matin. La souffrance, nos incompréhensions doivent être mises à la lumière de la résurrection de Christ. Un peu plus tôt, on a fait le lien entre les disciples et nous-mêmes, avec ces questionnements qu'on pouvait avoir sur le fait que Jésus, finalement, n'est peut-être pas celui qui prétend être. Parce qu'il se passe ça, je prie pour ça, mais ça ne se passe pas comme moi je voudrais. On a vu qu'on pouvait parfois ne pas comprendre pourquoi Jésus ne répondait pas à telle ou telle demande de notre part. Pourquoi je n'arrive pas à ressentir la présence de Jésus en moi. Pourtant, il a dit qu'il serait toujours avec moi. Ce passage nous permet de résoudre toutes ces incompréhensions, comme il l'a fait avec les deux disciples ici. Nous voudrions que Jésus règle tous nos problèmes. Mais si Jésus ne le fait pas, il n'est peut-être pas vraiment le sauveur, n'est-ce pas ? Les deux disciples se disaient, mais nous voulons que Jésus soit le Messie. Mais s'il meurt sur la croix, c'est certainement pas lui, celui que la nation attendait. Mais bien sûr que si. L'accomplissement du salut est en Jésus-Christ à travers sa résurrection. Ça va au-delà de ce que les disciples espéraient Et ça va au-delà de nos espérances aujourd'hui. Voir Jésus ressuscité, est justement ce qui nous assure que la maladie, que nos relations problématiques, que ce soit au travail, familial ou autre, que nos tristesses seront parfaitement résolues. Bien sûr que nous ne sommes jamais seuls. Jésus, en ressuscitant, qu'est-ce qu'il a fait 40 jours plus tard? Il est monté auprès du Père. Il a dit dans l'évangile de Jean, « Il est préférable pour vous que je m'en aille parce que je vous envoie qui ? Je vous envoie le Consolateur, le Saint-Esprit. Tu ne ressens pas la présence de Dieu ? Tu te trompes. La résurrection te certifie que Jésus habite en toi par son Esprit pleinement. » Et je vous invite à lire le début de la lettre, la première lettre aux Corinthiens. Il nous est dit que l'Esprit est en train de nous révéler les merveilles de Dieu, que c'est le seul qui connaît Dieu parfaitement et par son Esprit nous connaissons parfaitement Dieu. La résurrection, c'est aussi notre certitude que nous aurons un corps glorifié. Est-ce que ça vous réjouit ce matin? On aura un corps semblable à celui de Christ, parfait, sans dérèglement, sans maladie. C'est réaliser que Jésus est ressuscité a complètement réjoui les disciples, a renouvelé leur compréhension, leur espérance du Messie promis. Alors proclamez aujourd'hui ensemble, comme eux, que Jésus est réellement ressuscité, devrait aussi renouveler notre joie, notre compréhension de qui est Jésus, nous donner ou nous renouveler notre espérance. Que son retour à la vie est la garantie pour nous aujourd'hui de l'anéantissement du mal, de l'anéantissement de nos douleurs, de nos souffrances et ultimement de nos péchés déjà aujourd'hui, lorsqu'il nous reviendra nous chercher dans sa gloire. Verset 26, on relit ensemble. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Nous aussi, étant unis à Christ, nous aurons à souffrir des choses à partir de ce monde. Mais nous aussi, nous rentrerons un jour dans sa gloire à travers la promesse qui nous est obtenue à la résurrection de Jésus-Christ. Pour clôturer, j'aimerais nous rappeler une chose que nous avons besoin, chacun d'entre nous. Ce n'est pas d'un Jésus vivant que nous avons besoin, mais nous avons besoin d'un Jésus mort et ressuscité. Je vous invite à la prière. Prions. Seigneur Dieu, quelle joie! Quelle joie d'être exposé encore à ce miracle de la résurrection. Là où tout commence pour nous, où le pardon de notre péché est garanti, là où la vie éternelle dans ta présence est garantie, là où nous pouvons espérer un monde sans souffrance, sans peine, là où la tristesse n'existe plus, là où les conflits n'existent plus. Merci Seigneur parce que tu as accepté de passer par la mort et on s'est souvenu de ça vendredi. Mais merci parce que le tombeau est vide aujourd'hui. Merci parce que tu n'es pas resté cloué sur cette croix ou couché dans ce tombeau, mais tu es vivant aujourd'hui. Merci parce que tu règnes à la droite. Merci parce que tu nous envoies le Consolateur qui habite en nous. Seigneur, je te prie que toutes les personnes présentes ici et moi-même, nous puissions encore être dans la joie cet après-midi, dans les jours, dans les mois, les années qui viennent. Parce que tu es le Christ ressuscité, celui qui a réponse à notre souffrance et à notre péché.